Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
La ministre des Hydrocarbures retire les agréments de tous les dépôts de stockage de produits pétroliers à Kinshasa. Une décision annoncée hier lors de sa descente sur le site en incendie à Limété. Un dépôt de carburant a brûlé, faisant 5 blessés graves et une cinquantaine de maisons calcinées. Vers une stabilisation du cessez-le-feu dans l'est de la RDC, la MONUSCO salue les avancées obtenues sous la médiation du Qatar entre Kinshasa et les rebelles de la FCM-23. Les deux parties se sont accordées sur les modalités techniques de surveillance du cessez-le-feu. Attaque ratée de l'aéroport international de Bamboka à Kisangani par des drones kamikazes le week-end dernier. Les participants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier ont débattu à ce sujet dans ce journal les avis des uns et des autres. Madame, Monsieur, bonjour. La loi est dure, mais si la loi, la ministre des Hydrocarbures ordonne le retrait des agréments de tous les dépôts de stockage de produits pétroliers à Kinshasa, cela au lendemain de l'incendie déclaré au quartier Sokopao dans la commune de Limété. En tout cas, Acacia Bandoubola a annoncé hier mardi une série de mesures d'assainissement dans son secteur. Elle a fait cette annonce lors de sa descente sur le lieu du sinistre accompagnée des membres de son cabinet et des différents services techniques. Les propos d'Acacia Bandoubola recueillis par Blaise Ndongala.
Nous avons relevé des irrégularités dans le chef de gérant ainsi que de gestionnaire de la station, comme de légèreté dans le process de stockage, de commercialisation de produits pétroliers. Nous sommes ici dans la commune de Limété, effectivement, pour constater le même dégât, c'est-à-dire encore un incendie. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme, mais nous déplorons cette situation qui devient récurrente. Et nous avons pris l'autorité, au regard de la situation actuelle, de retirer tous les agréments de ces dépôts de fortune de produits pétroliers. Nous allons par ricochet constituer une commission très rapidement pour qu'un contrôle fait sur l'ensemble du territoire national, que ce soit dans la zone sud, dans la zone nord, dans la zone ouest ou dans les autres zones où il y a la commercialisation, l'entreposage de produits pétroliers. Comme je l'ai dit, la manipulation de ces produits demande à ce que les normes soient respectées. Les normes de sécurité, les normes de la manipulation et des personnes habilitées à le faire doivent être des professionnels.
De son côté, la ministre, la bourgmestre de la commune de Limété, Nathalie Alamba Feza, remercie la ministre d'État et promet de mettre à sa disposition la liste de tous les dépôts de stockage des produits pétroliers et des stations-service opérant dans sa municipalité. Pour rappel, jusqu'à hier, le bilan faisait état de 5 personnes qui s'en sont sorties avec des brûlures graves. Une cinquantaine de maisons sont parties en fumée, laissant des dizaines de familles sans abri. Les victimes affirment avoir tout perdu. On compte aussi plusieurs véhicules calcinés, dont un camion citerne. L'éboulement survenu le 28 janvier dernier dans le périmètre minier 4731 de Roubaïa au Nord Kivu fait encore parler et de lui. Aucun bilan définitif n'est encore disponible après cette catastrophe, mais selon les organisations de la société civile, environ 400 personnes auraient perdu la vie, tandis que plusieurs autres seraient blessées ou portées disparues. Ce drame, loin d'être un fait isolé dans cette région, ravive les inquiétudes autour des conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles travaillent les creuseurs artisanaux sur des sites désormais placés sous le contrôle de groupes armés. Grâce à Zati nous dresse ici la description de cette zone minière.
Située dans le territoire de Masisi, dans le groupement Mufuni Matanda, chefferie de Baoundé, le périmètre minier 4731 ou PE4731 s'étend sur environ 3000 hectares. À l'origine, ce périmètre appartenait à la société aurifère du Kivu et du Maniema Sakima, entreprise publique congolaise. En 2001, il est attribué à la société minière de Bisunzu, SMB, propriété du député Edouard Mwanga Chuchu, condamné à mort le 6 octobre 2023 par la justice militaire pour, entre autres, détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Entre 2023 et 2024, le périmètre entre dans une phase d'exploitation totalement illégale. Il passe entre les mains d'abord du mouvement armé Pareco FF, puis depuis début mai 2024, du mouvement rebelle AFC M23 soutenu par les Rwandais. Selon un extrait du rapport du groupe d'experts des Nations Unies, entre 120 et 150 tonnes de coltan sont actuellement exportées clandestinement des Roubaïa vers le Rwanda. L'AFC M23 tirerait plus de 800 000 dollars américains par mois des taxes illégales imposées sur la production et le commerce de ces seuls minerais, alimentant en parallèle un important réseau de contrebande au détriment de l'État congolais.
Vers une stabilisation du cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO se dit prête à passer à l'action pour soutenir concrètement la fin des hostilités. Dans un communiqué publié ce matin, la mission onusienne salue les avancées obtenues sous la médiation du Qatar entre le gouvernement congolais et l'AFC-M23. Kinshasa et les rebelles se sont accordés sur les modalités techniques de surveillance du cessez-le-feu. Écoutez à ce propos la porte-parole de la MONUSCO, Kadi Londey. Ces propos sont recueillis par Lievin Bunga.
La MONUSCO salue les progrès annoncés par l'État du Qatar dans le cadre des pourparlers facilités à Doha entre le gouvernement de la République et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Notamment, l'accord sur des termes de référence détaillés visant à opérationnaliser le mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu établi dans le cadre du dispositif de cessez-le-feu. Tout en réitérant son appel à la cessation des hostilités, la MONUSCO rappelle que conformément à la résolution 2808-2025 du Conseil de sécurité, la mission est explicitement autorisée à appuyer la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment par sa participation et la fourniture d'un appui technique et logistique à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs dans le cadre du mécanisme de vérification élargi plus MCVE plus.
Allons sur le terrain à présent. 4 civils ont été tués, 6 motos incendiées lors d'une nouvelle embuscade attribuée aux rebelles ADF hier mardi. Cela a eu lieu à Moulolia, une localité agricole située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la commune rurale d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, et à une quarantaine de kilomètres de la ville de Béni. Vous avez compris, nous sommes dans le nord Kivu. Entre-temps, il est signalé un déplacement massif de la population vers Oïcha au moment où la circulation est suspendue sur cet axe routier. Marc Marofimbo nous en dit plus.
L'attaque s'est produite aux environs de 8 heures locales. Selon nos sources, des rebelles des ADF venus de l'ouest de Mamové, déjà touchés il y a 2 jours, ont tendu une embuscade aux usagers de la route Oïcha-Moulolia-Mamové. 4 passagers ont été tués et 6 motos incendiées. Cette nouvelle attaque porte à 9 le nombre de civils tués dans la zone en seulement 3 jours. Toujours dans la région, mais à Malibo, une autre embuscade a été signalée le même jour. Des cultivateurs ciblés ont réussi à s'échapper et à rejoindre Oïcha. La circulation reste suspendue sur ces tronçons routiers. Les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général d'Oïcha par des jeunes volontaires. Depuis les attaques survenues dimanche dernier à Mamové, Mbingi et Vuira, la commune rurale d'Oïcha accueille de nombreux déplacés. Signalons que depuis dimanche, le chef d'état-major adjoint à charge des opérations des FARDC est en mission à Beni. Marc Marofimbo, Beni, Radio Okapi.
Parlons justice avec cette carence des juges dans les territoires de Luebo, province du Kasaï. Le tribunal de paix et le tribunal de grande instance sont dépourvus de ces personnalités depuis plus de 5 ans. Conséquence, de nombreux prévenus passent des années en détention sans jugement. Certains ont même perdu la vie sans avoir vu leur sentence prononcée. Face à cette situation, la société civile locale appelle le Conseil supérieur de la magistrature à affecter des juges dans ces juridictions afin de garantir le respect des droits de détenus. André Katende Ngalamouloumé nous décrit la situation.
Les prisonniers de Luebo ne sont pas jugés faute des magistrats. Certains sont incarcérés depuis plus de 5 ans sans procès. Maître Kawanga Jacques, avocat au barreau du Kasaï, déplore.
J'ai des clients qui sont arrêtés, détenus et oubliés dans les prisons. Parfois, ils sont là pendant des années sans être jugés. Et certains meurent innocemment, simplement parce qu'il n'y a pas de juge. Et ça me fait très mal.
Face à cette situation, la nouvelle société civile congolaise du territoire de Luebo plaide auprès du chef de l'État et du Conseil supérieur de la magistrature pour l'affectation urgente des magistrats. Son coordonnateur territorial, Basile Mbanza, souligne.
À Luebo, les droits des détenus sont systématiquement violés. Faute de fonctionnement effectif des juridictions, il faut agir urgemment car il s'agit d'êtres humains et plusieurs parmi eux sont innocents.
Il convient de noter que cette pénurie des juges touche également les territoires de Mweka, Ilebo et Dekesse. Kananga, André Katindengalamouloumé, Radio Okapi.
Et non loin de là, sur un tout autre chapitre au Kasaï oriental, la société civile du Congo, coordination de Miabi, alerte sur la dégradation de la route qui relie Mbushima à la société Anui Congo d'investissement minier Sassim, un établissement qui exploite le diamant dans la cité de Boya. D'après la société civile, une telle érosion menace de couper la route dans les secteurs de Kakangaï, plus précisément au niveau de l'école primaire Chilundu Central. Des poteaux électriques transportant du courant produit par le barrage hydroélectrique de Toubi-Toubidi risque de tomber et plonger la ville de Mbujimayi dans le noir et créer ainsi une pénurie d'eau. Sosiko affirme que cette dégradation est causée par les engins de la société civile, de la société SACIM. C'est pourquoi elle demande au gouvernement provincial de mettre en place des mesures afin de protéger la route. Christopher Kawaya de la Sosiko exprime cette inquiétude au téléphone des stands à la finale.
Les voies de l'école primaire Tilounou Central, un ravin en progression rapide menace directement l'école Siwo-Cité risquant d'être effacée. Les poteaux électriques transportant les courants produits par le barrage hydroélectrique de Toubi-Toubidi pourraient être engloutis. La population du Kassa oriental sera plongée de nouveau dans les noirs par la perte d'électricité. Une pénurie d'eau aggravera la situation humanitaire. L'école Siwo-Cité disparaîtra, privant ainsi les enfants de l'air de droit à l'éducation. La société civile du Congo souligne que les engins de la société SACIM contribuent à la dégradation accélérée de cette route. Le gouvernement provincial du Kassa oriental a le devoir de protéger les infrastructures scolaires et énergétiques vitales pour la population. La SOSICO demande une intervention immédiate pour sécuriser la route et stopper l'avancée du ravin. Elle invite la société SACIM à assumer sa part de responsabilité en mobilisant ses moyens techniques pour réparer les dégâts. Exhorte enfin le gouvernement provincial à mettre en place un plan d'urgence afin d'éviter une catastrophe éducative, énergétique et sociale.
Toutes tentatives pour joindre les responsables de la SACIM se sont avérées vaines jusque-là. Du côté du Congo central, sachez que le projet de réhabilitation de la route nationale numéro 16 reliant les territoires de Madimba et Kimvula est désormais suivi par le gouvernement central. Les travaux amorcés dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État avaient été suspendus en raison des problèmes liés aux études techniques. Dans une vidéo publiée le week-end, Michael Lukoki, directeur du cabinet de la première ministre, a apporté des éclaircissements sur l'état d'avancement de ces chantiers. Il a indiqué que les différents partenaires sont à l'œuvre et que le gouvernement travaille à finaliser des études complètes et fiables, conditions indispensables avant toute reprise des travaux. On écoute Michael Lukoki dans cet extrait proposé par Nana Plurich Mambou.
La route nationale numéro 16, c'est une route qui a un historique assez particulier et c'est pour cela, en fait, en tant qu'élu de la circonscription de Madimba, nous faisons toujours le plaidoyer et c'est une attente que la population espère voir les travaux démarrer le plus rapidement possible. Je suis allé voir le ministre des Infrastructures, monsieur le ministre John Banza, avec qui nous avons discuté pour que ces travaux, une fois démarrés, ne puissent plus s'arrêter. Il a écrit aux différents prestataires parce qu'il y a un problème d'études. Les études ne sont pas complètes. Aujourd'hui, il veut travailler dans le sens d'avoir des études complètes de la RN16 avant de pouvoir lancer les travaux. Nous continuons à faire le plaidoyer. Nous espérons que avant la fin du mandat du président Félix Tshisekedi, les travaux de la RN16 vont commencer. Et nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer. J'espère que le ministre John Banza pourra s'adresser à la population de Madimba qui attend cette RN16 depuis plusieurs années.
À propos de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka poursuit sa tournée dans la province de la Mongala. Elle est arrivée lundi dans la ville de Bumba après Lisala et Bongandanga. La chef du gouvernement a appelé à la préservation de l'intégrité territoriale et à la collaboration entre la population et les forces de l'ordre. Elle a rassuré sur la résolution imminente des dossiers sensibles. J'en appelle à l'unité nationale. La population et la police doivent œuvrer ensemble pour la défense du pays. Le président de la République a instruit le vice-premier ministre de régler la question des arriérés pour le traiter les fonctionnaires, tout comme le problème de l'électricité a-t-elle assuré. Elle était accompagnée du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, et de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elébé. Plus de détails avec Alain Rung.
Sur son chemin de l'aérodrome à l'avenue du port, la première ministre a inspecté les berges du fleuve, menacées par une érosion préoccupante. Des travaux de protection anti-érosive y seront engagés pour sauvegarder les habitations riveraines et le bureau de l'administration territoriale dont l'intégrité est compromise. Dans son allocution, la première ministre a détaillé sa vision. Nous devons vous doter des infrastructures nécessaires pour moderniser la ville. C'est par le développement que le pays s'améliorera. 6 ponts seront également modernisés. Nous vous demandons de protéger vos familles en quittant les zones à risque. J'ai demandé au gouverneur d'identifier toutes les personnes concernées pour les indemniser et lancer sans délai les travaux de protection du quai fluvial, a dit Judith Souminois. Cette initiative offrira pour la première fois à Bumba un réseau de voiries entièrement revêtu, marquant un saut qualitatif dans l'aménagement urbain. Judith Souminois a également évoqué les difficultés de communication dans la région en raison d'une faible couverture téléphonique. Elle a rappelé les instructions du président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres du 9 janvier face aux défaillances persistantes des dites entreprises qui affectent gravement la vie quotidienne des citoyens.
Actualité internationale.
Le Malawi déclare une seconde résurgence de l'épidémie de poliomyélite sur son sol. Le virus a été détecté dans des échantillons prélevés dans des toilettes publiques à Blantyre. Le ministère de la Santé et Assainissement appelle ainsi tous les Malawiens à prendre la situation au sérieux et à adopter immédiatement des mesures préventives, la vaccination étant identifiée comme la ligne de défense la plus importante. Suivant les conseils de l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement affirme avoir activé les systèmes d'intervention d'urgence et intensifier la surveillance, les campagnes de vaccination et la sensibilisation des communautés afin d'empêcher toute nouvelle propagation.
L'invité.
L'aéroport international de Bamboka, Kisangani, dans la province de Latchopo, a été ciblé le 31 janvier et le 1er février, donc le week-end, aux environs de 2h du matin par des drones kamikazes. Les participants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi ont débattu au sujet de cette attaque. On les écoute au micro de Kimate.
Sernold de Tandia Akomboyo, vous êtes ministre provincial en charge du budget et porte-parole du gouvernement provincial de la Tchopo. Qu'est-ce qui s'est exactement passé dans la nuit du 31 janvier au 1er février à l'aéroport international de Bamboka à Kisangani?
Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que nous avions vécu dans cet intervalle de temps, depuis 5 heures à la journée de 31, jusqu'à 2h du matin de la journée de dimanche, nous avions assisté à une série d'attaques de notre aéroport international de Bamboka, situé à 17 km du centre-ville de Kisangani. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Nous avions enregistré une attaque provenant de nos agresseurs. Quand je parle ici de nos agresseurs, nous devons citer les choses à leur nom. Il s'agit du Rwanda et de ses supplétifs AFC 123 qui ont envoyé des drones kamikazes porteurs de munitions non conventionnelles et avec comme cible l'aéroport. Mais la question qu'on peut se poser au préalable, pourquoi avoir ciblé un aéroport civil qui reçoit des trafics commerciaux, les familles, les opérateurs économiques, alors qu'il ne s'agit même pas d'un aéroport militaire. Et ces engins portant des munitions non conventionnelles ont été détectés par notre système de défense. Nous avons une force de défense sur place qui est très, très professionnelle, je dirais très professionnelle, et avec un dispositif opérationnel consistant pour pouvoir faire face à toute forme d'attaque.
Patrick Matata Makalamba, vous êtes professeur, député national élu de la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo. Vous êtes également cadre de l'IDPS, parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation. Il y a une multitude de groupes armés dans la partie est de la RDC. N'est-ce pas que ces attaques pourraient aussi provenir des groupes qui n'ont rien à voir avec l'AFC 123, messieurs les députés Patrick Matata?
Dans la région de Kisangani, tout autour de la Tchopo, nous n'avons pas reçu notification des groupes armés qui disposeraient des drones kamikazes. L'unique pays qui a équipé ces forces armées qui sont sur la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda et c'est contre tout le monde. Tous les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, la dernière, la 2773, montrent que c'est le Rwanda qui conçoit, qui planifie, qui équipe, qui ordonne l'agression contre la RDC. Donc il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que c'est le Rwanda qui voulait encore une fois s'aimer la mort comme dans son habitude. C'est ces régimes-là de Paul Kagame que nous condamnons.
Dismas Kitenge, vous êtes président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Les populations habitant les environs de l'aéroport avaient abandonné leur maison pour chercher où s'abriter contre ces différentes attaques. Quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler à l'endroit du gouvernement central pour la protection des civils en cas de nouvelles attaques, monsieur Dismas Kitenge?
Les populations demandent au gouvernement de les protéger. C'est-à-dire que le gouvernement puisse rassurer les populations qu'elles disposent de moyens suffisants pour les mettre à l'abri. Bon, déjà un élément qui est très positif ici pour cette première recommandation, c'est que le gouvernement provincial, le gouvernement national a pu démontrer qu'il dispose de moyens suffisants pour neutraliser les drones. Ça, c'est la première fois que les populations. Alors, ça, c'est le premier élément, sécuriser les populations civiles, c'est-à-dire accueillir le moyen sophistiqué pour faire face à une nouvelle attaque de drones avec des technologies très avancées. C'est la première recommandation. Deuxième recommandation, c'est la communication. La population a besoin d'une communication transparente, efficace, à temps réel du gouvernement.
Voilà, merci à vous Guy Maté pour les invités de Dialogue en Congolais, émission à réécouter sur www.radiookapi.net. Merci de l'attention que vous avez accordée à ce journal préparé par Lievin Binga, mise en onde par Dieudonné Enyangasa. Madame, Monsieur, nous vous souhaitons une excellente journée.